Dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie a écrit, entre autres, ce verset destiné pour le peuple juif et pour le monde. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, hein, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, vient à toi. » Nous sommes envahis par cette actualité. Nos yeux sont rivés en direction du Proche-Orient. Et nous nous questionnons en tant que chrétiens. Alors, est-ce que l'Israël biblique, est un accident de parcours? Certains disent que c'est une guerre comme d'autres et qu'il y en aura aussi d'autres. Est-ce que l'Israël, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec, avec l'Israël biblique, c'est-à-dire l'Église a remplacé Israël? Ou bien alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce que la Bible affirme et ce qui se passe en Israël? En tout cas, c'est ce que nous pensons. En d'autres termes, on peut se poser la question, sommes-nous concernés par ce qui se passe là-bas, à des milliers de kilomètres? Dieu a fait une promesse, déjà dans le livre de la Genèse, avant même que les nations existent. Promesse à Adam et Ève, qui concernait toute l'humanité. Le diable allait être écrasé par celui qui allait venir de sa part. Et l'humanité, depuis Adam, était dans l'attente de cette réalisation. Dans Malachie, chapitre 3, le dernier prophète de l'Ancien Testament, eh bien, le prophète rappelle de nouveau, « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Un temps d'attente. L'attente d'Abraham, à qui Dieu a promis un peuple. L'attente de Moïse, à qui Dieu a promis et donné la loi. L'attente de ce peuple par les prophètes qui vivaient dans l'attente de celui qui allait venir et réaliser la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. Et puis voilà qu'Israël a été déporté par sa désobéissance, et les prophètes sont revenus en leur disant, il va venir celui que Dieu a promis. Israël connaissait le seul vrai Dieu à l'époque, dans un monde polythéiste, et Israël devait servir et s'attacher fermement à ce Dieu unique. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Pas facile de rester ferme dans cette situation pour un peuple entouré d'ennemis. Pas facile de rappeler cette conviction, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et Israël a attendu. Attendu jusqu'à ce que, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu a parlé par son Fils. Galates 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Voilà que la promesse a été réalisée et l'attente devait normalement être finie. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose qui se réalise. Une promesse, vivre dans l'attente. Réalisation, nous n'attendons plus. Mais il y a eu un problème. C'est que le peuple d'Israël qui a attendu n'était pas prêt. C'est curieux, non? On peut attendre quelque chose et quand cette chose arrive, eh bien, on peut ne pas être prêt. Jean-Baptiste est venu, ils n'ont pas cru. Beaucoup sont fait baptiser, certains ont cru en lui, qui était le précurseur du Messie. Les scribes et les pharisiens, eh bien, scrutaient les Écritures, mais ils n'ont rien vu. Israël n'a pas reconnu le messager, donc ils ne sont pas préparés à la venue du Messie. On peut attendre sans être prêt. C'est paradoxal, non? Ainsi, Jean écrit, la lumière, donc le Messie, Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont attendu. Même ceux qui connaissaient les Écritures ont attendu. Et au temps du roi Hérode, quand les mages étaient venus à Jérusalem en disant qu'ils suivaient l'étoile en direction de Bethléem, à cette nouvelle, Hérode fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ, le Messie, celui qu'on attendait. Et lui dire à Bethléem en Juda, car voici ce qu'a dit le prophète Michée. Et puis, personne n'est allé à ce lieu, si ce n'est les bergers qui ont été interpellés par les anges. On peut attendre sans être prêt. Jean, chapitre 5, versets 39 et 40, c'est ce que dit Jésus. Vous sondez les Écritures aux responsables religieux, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et puis Jésus pleurera sur Jérusalem. Et oui, comme il s'approchait de la ville, en voyant Jérusalem, Jésus pleura sur elle, en disant, si tu connaissais toi aussi en ce jour, ceux qui te donneraient la paix. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant tout ce temps où le peuple d'Israël a attendu? Eh bien, en réalité, Dieu, dans sa sagesse, a dit, si Israël veut attendre encore, qu'il attende. La bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, va être destinée aux païens. C'est ainsi que Israël, qui a connu Dieu, le vrai Dieu, attend toujours. Et c'est ainsi que l'Église va connaître en Jésus le seul et l'unique sauveur. Oui, Dieu s'est tourné vers les païens et Israël est resté en stand-by. L'Église n'attend plus pour savoir qui est le sauveur. Nous le savons, nous l'avons reconnu. C'est le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, lui qui a accompli les prophéties, lui qui a été tant attendu dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'une personne. Le christianisme n'est pas une théorie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie. Comme Billy Graham l'écrivait en son temps, le christianisme n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est l'effort de l'homme d'aller vers Dieu. La définition même du dictionnaire est celle-ci. La religion est la croyance en un Dieu unique ou en des dieux et le culte qui en résulte. Le christianisme est autre chose. C'est Dieu qui établit avec l'homme une relation personnelle rendue possible par une personne qui est Jésus-Christ. Oui, Jésus de Nazareth est venu par ses œuvres, son enseignement, sa mort et sa résurrection. Ainsi, nous, païens, eh bien, nous l'avons reconnu. Alors, à ce niveau-là, on va s'arrêter juste un peu et se poser la question. Qu'est-ce que tu attends dans la vie? Qu'attends-tu? Attends-tu que ta situation s'améliore? Peut-être que tu as un sujet de prière qui te tourmente et tu pries Dieu, j'attends cela de tout mon cœur. Peut-être tu attends l'aboutissement d'un projet, ou peut-être que tu attends que demain ça aille mieux. Hein? Mais voilà, tu n'as aucune garantie sur tout cela. Nul d'entre nous ne peut garantir de ce qui se passera demain. Mais si Jésus n'est pas ton sauveur, si tu es esclave de ton péché, alors ta vie est vide. Le trouble t'envahit. Le mal-être est là. Alors je te dirais, n'attends plus. Saisis cette main du Seigneur. Car cette attente-là est la plus importante. C'est l'essentiel. Le Sauveur est venu. Tu n'as plus besoin d'attendre. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il est là. Ce royaume est là par Jésus. Et toute chose pourra attendre. Pourront attendre. Alors, est-ce que l'Église a quelque chose à attendre? Puisque nous avons tout en Jésus. Bien sûr, nous avons à attendre. Que nos projets se réalisent? Que des objectifs soient accomplis? Que ceci, cela, en fait, ce que l'Église doit attendre ardemment, eh bien, c'est le retour de Jésus. C'est cela maintenant notre véritable attente. Son retour, il en a parlé. Lui-même a dit, alors, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Le Seigneur est venu, il va revenir. Les anges l'ont annoncé aux apôtres qui étaient les yeux fixés, voyant Jésus monter au ciel. Les anges leur disent, mais pourquoi arrêtez-vous vos regards au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Les apôtres, alors, l'ont enseigné. Partout où l'évangile a été annoncé, son retour a été annoncé. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et l'Église primitive a vécu là-dedans. Mais voilà que l'Église a attendu 50 ans, un siècle, deux siècles, un millénaire. Et au fur et à mesure, cette attente a été mise de côté. Au 19e siècle, quand les mouvements de réveil ont commencé à propager l'évangile, eh bien, on est revenu à l'évangile. Jésus va revenir. Et on a commencé à parler de son retour. La génération de nos pères en parlait encore. Ceux qui, en 1948, ont vécu la déclaration de l'État d'Israël, ont dit, ça y est, Jésus va revenir. Mais petit à petit, eh bien, les événements ont eu lieu, et puis plus rien. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, aujourd'hui, on n'enseigne plus dans les facultés et les instituts bibliques l'eschatologie. On ne va pas perdre notre temps à parler de ce qui se passera à la fin. Et comme me disait un étudiant, un ami que je connaissais, à la question « Que pensez-vous du retour de Jésus ?» il a écrit, réponse, « On verra. » Mais d'autre part, c'est que nos soucis et nos préoccupations sont devenus tellement importants qu'on a laissé de côté ce thème. Et je crois que le dernier verset de Malachie m'a interpellé. Avant la venue du jour de l'Éternel, c'est de cela dont on parle du retour, un jour grand et redoutable, celui que j'envoie ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mes frères et sœurs aînés, vous qui avez grandi dans cette théologie du retour de Jésus, c'est de votre rôle que de l'enseigner à vos fils et à la génération qui vient. Sinon, qui le fera? Ce que Dieu veut, c'est ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Nous devons nous préparer à ce retour. Alors, bien sûr, les choses tardent. Et quand elles tardent, déjà, des moqueurs se lèvent. Vous savez, ceux qui font le buzz, ou ceux qui passent à rire et chanson, voilà. Les moqueurs, dit Pierre, ça existait bien avant, hein, plein de railleries diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Pensons-nous vraiment que tout va demeurer tel quel après ce qui va se passer en Israël? J'en doute. Certains disent, et c'est la confusion, voyez, le royaume est déjà là. Jésus règne. Ah bon? Ça existe, hein? D'autres disent, finalement, toutes les religions se valent. Ou Dieu nous a oubliés. Ou, il y a une confusion même dans la théologie. Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu aies une vie prospère et que tu réussisses dans tous les domaines. Mes frères et sœurs, fuyez ceux qui vous promettent que le christianisme, c'est le bien-être et la prospérité et qui en évacue la souffrance. La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Fuyez ce qui mélange vérité et mensonge, le bien et le mal, la pensée selon l'homme et la pensée selon Dieu, comme dit l'épître de Jean, 1 Jean 4:1, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Quelque chose a changé depuis 1948, ou depuis 56, 67 ou 73, ça c'est les guerres qu'Israël a connues. Matthieu, chapitre 24, « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 24, « Car il se lèvera de faux prophètes et de faux Christ, ils opéreront de grands signes et prodiges au point de séduire, si possible même les élus. » Mais qui est concerné par ce verset? Celui qui attend. Quel est le peuple qui attend son Messie? Israël. Les premiers concernés par ces versets sont les Juifs. Ils vont espérer que le Messie va se révéler afin de pouvoir être sauvés. Du moins, c'est ce que j'en comprends. Ils sont toujours dans l'attente du Messie. Et pourtant, Jésus avait prévenu ses contemporains. Le Messie est venu. Pas besoin de l'attendre. C'est son retour que nous attendons. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez. Comment pouvez-vous dire, vous qui recevez la gloire des uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, comment pouvez-vous croire? Nous pouvons nous aussi savoir et connaître tout cela, et nous pouvons nous aussi ne pas être prêts. Eh oui, c'est aussi une réalité, ce n'est pas seulement que les autres qui sont concernés, nous le sommes aussi. Seul le Saint-Esprit et Dieu peut nous garder de l'erreur. D'abord par une bonne connaissance de la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 10. Que dit Jésus à cette église petite qui persévère? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien moi je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Saint-Esprit nous garde aussi de la séduction, du séducteur qui va venir et se faire passer pour le Christ, c'est-à-dire l'Antéchrist. Comment? Eh bien, par amour pour la vérité. De Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit, l'avènement de l'impie, de l'antéchrist, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de quoi? De miracles, de signes, de prodiges mensongers. Soyons pas des curieux de miracles. L'antéchrist en fera. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors dans ce temps d'attente où Jésus va revenir, ne dormons pas. Ne nous assoupissons pas. La vigilance est de rigueur. Tout à l'heure, Luc a donné une belle image. Ces racines qui sont, vous savez, hein, voilà, qui sont là, et par la croix, donc ces racines de soucis qui nous étouffent, vous savez, hein, voilà, les soucis de maladie, la dépression liée, voilà, la difficulté liée au travail, les situations financières compliquées, le relationnel, familial, etc. Eh bien, peuvent être des pièges. Ces racines doivent être coupées. Alors, d'où vient ce manque de vigilance? Eh bien, quand nous manquons de vigilance, ces racines prennent le dessus. Premier indice, premier piège, ce sont nos soucis. Nous avons tellement de soucis que franchement, le retour de Jésus, c'est ouf, hein, 50e dans la liste de nos soucis, alors qu'il devrait être en première place. Jésus dit ceci, c'est dans l'évangile de Luc. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos peurs, que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Vous avez bien dormi cette semaine? Ah, on n'ose pas dire non, hein. Moi, j'ai eu deux nuits compliquées, je l'avoue. Les soucis. Légitime. Hein? Les soucis sont là. C'est indéniable. Mais attention que ces soucis ne prennent pas toute la place. Et disent au Seigneur, écoute, mets-toi de côté, j'ai pas assez de place pour ranger mes soucis. La deuxième des choses qui sont un piège, qui peuvent nous assoupir, eh bien, ce sont les désirs et la séduction. Il n'y a pas que les soucis, hein. Dans Matthieu et dans Marc, Jésus relève ce détail. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, bien sûr, les soucis du monde, mais aussi la séduction des richesses vient étouffer cette parole et la rendre infructueuse. Marc chapitre 4, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes, eh bien, pénètrent en eux, étouffe la parole et ne produit rien. Nos joies, nos désirs, nos convoitises peuvent être un sérieux piège qui nous mène à nous assoupir et à nous endormir. Il y a aussi la relativité théologique. Vous savez, la Bible dit que, mais, voilà, on ajoute quelque chose. Hein, et Jésus reprend ses adversaires, hein. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de la tradition? Ou alors, vous, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça prend tellement de place. Il n'y a pas que le laxisme qui peut nous endormir. Le légalisme aussi peut nous endormir. Nous voulons être tellement à cheval sur ce que Dieu dit que finalement nous sommes les plus purs, des 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 plus purs, etc. Et nous nous éloignons du cœur et de la pensée de Dieu. Quelque chose aussi peut être un piège, c'est la tristesse et le découragement. Et nous en savons quelque chose, hein. Ça fait un mois aujourd'hui que l'Église a été frappée d'une grande tristesse. La tristesse ne doit pas provoquer en nous l'assoupissement spirituel. Luc chapitre 2, Jésus se releva de sa prière et vint voir les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. quand nous sommes tellement découragés, eh bien, nous pouvons nous assoupir. Et Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Il peut y avoir la négligence et on peut sous-estimer la puissance de l'ennemi. Soyez sobres, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et puis il peut y avoir la routine spirituelle, il peut y avoir le manque de reconnaissance. Vous savez, on est des chrétiens, on ne sait pas dire merci à Dieu. Il peut y avoir toutes sortes d'activités. Alors, en conclusion, quand Jésus a parlé des derniers jours, je pense que nous vivons, il dit plutôt que ce seront des jours sombres. Il ne dit pas ça va être génial, hein? Des jours difficiles, des jours de persécution, et même que beaucoup s'éloigneront de la foi parce que ça deviendra pour eux insupportable. Le conflit en Israël, c'est ma pensée, se répandra et s'embrasera. Aujourd'hui, les nations sont avec Israël. Demain, les nations se dresseront contre Israël. Comment cela sera-t-il possible? Quand Dieu dit quelque chose, la chose se réalise, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Demain, les nations se dresseront contre Israël. Le monde accusera, comme elle le fait aujourd'hui, les religions et les spirituels d'être à l'origine de tous les maux de la terre. Eh oui, c'est la faute aux extrémistes. C'est la faute aux religions. C'est la faute aux, évidemment, aux chrétiens. Hein? Vous êtes tellement dans votre conviction que, etc., etc. Et je pense même que ce sujet d'Israël va causer des divisions au sein des églises. Mais voici qu'il revient. Le roi est de retour. Et c'est cela qui nous intéresse. Notre roi Jésus est de retour et les choses se précisent et se préparent. Et quand il reviendra, la bénédiction sera pour Israël. Quand il reviendra, la bénédiction sera pour l'Église et l'on pourra dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, voici deux versets pour nous encourager. Jésus dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et dernier verset de l'Apocalypse, il affirme ceci avant que le livre soit fermé. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, et nous disons, viens Seigneur Jésus, viens.